écoutez Radio Campus Lille, il est 15h.
Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, voyez-vous, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocables.
Bonjour à tous, merci de nous écouter cet après-midi. Au programme aujourd'hui pour cette émission hors série, je dis hors série puisque nous avons terminé la semaine dernière notre série sur le sauvage. Au programme donc de cette émission, le professeur Olibrius, votre chronique aléatoire, des sons et des musiques toutes teintées d'orange et de noir, car en effet, vous vous en doutez, on fête la fête des morts aujourd'hui. Mais avant ça, la première partie d'une fiction originale, Fraude à l'assurance, une fiction que nous avons produite cette semaine dans les studios de Radio Campus. Alors, un instant. Ça arrive, un petit peu de patience. En principe, ça arrive. Alors. Fraude à l'assurance. Alors, encore un petit peu de patience. Pas vrai, ça.
Fraude à l'assurance. Première partie, l'intrigue.
Je suis employé dans une boîte de production. Je travaillais sur un téléfilm comme assistant du son. Un jour, nous tournions à la mer. Lors de la deuxième prise, nous nous sommes déplacés de quelques mètres au prétexte d'un meilleur angle de caméra. Une vague plus grosse s'est alors brisée et nous nappant d'écume détruisait une partie du matériel de prise de son. Cette énième déconvenue scella définitivement le sort de cette journée qui fut aussi longue que détestable. La production avait finalement pu, in extremis, trouver une solution pour remplacer le micro perdu. On me désigna pour le sale boulot. Il consistait à passer chez un ingé son à Rennes sur le chemin du retour. La route fut longue. J'étais en colère. J'avais essayé d'appeler en arrivant, mais mon téléphone semblait lui aussi inutilisable. La production avait, dois-je dire heureusement, écrit l'adresse avec le numéro. Je parvins enfin devant l'immeuble où un ingénieur aviné me confia la valise ainsi que des papiers et me donna quelques instructions. Quittant le technicien, j'allumai une cigarette et j'eus envie de fumer dans le calme de la nuit. Je m'assis sur la valise face à la voiture. J'entendis alors une rumeur venant d'une rue sur la droite. Une porte entr'ouverte avait laissé sortir le vacarme d'un café. Je décidai d'aller boire une bière et pris la valise avec moi. L'ingé son avait expressément commandé de ne pas laisser la valise seule dans une voiture pour une histoire d'assurance. J'arrive dans ce café situé au coin d'une rue. J'entre, une vingtaine de personnes font la fête. Au bar, 6, 7, 8 personnes, quelque chose comme ça. Le café n'est pas très grand, long et assez étroit. Le bar occupe un tiers de la longueur vers le milieu et bien sûr s'adosse au mur opposé à la façade. Puis de part et d'autre, des tables, des banquettes, et à peu près face au bar, deux flippers et un jeu de fléchettes. Je vais au bar et je commande un demi. Il est passé 11h. Je me dis qu'un verre, c'est l'affaire de 20 minutes. Je m'installe dans le coin le plus large et le plus calme, du côté de la vitre. Il y a une porte qui bat de temps à autre derrière moi. C'est une sorte d'entrée alternative. L'ambiance est bruyante, un peu trop pour que j'y reste longtemps. Mais pour le moment, j'ai envie de boire mon demi et surtout de ne pas me raisonner. Il y a des moments comme celui-ci où se raisonner n'est pas raisonnable. Bref, je m'emporte tout seul en discutant ainsi avec moi-même et en esquissant sur un carnet une ou deux vues de la falaise qui surplombait le lieu du tournage. Je décide d'aller fumer une cigarette. Je prends ma veste et sors par la porte bis. Calme relatif. Deux filles discutent ensemble à ma gauche. Elles ont l'air saoules. Il faut dire que l'usage de ce genre de rade veut qu'on y passe la soirée, pas qu'on vienne y boire un simple demi. À gauche, un gamin me tape une clope. Je lui dis non, d'aller voir ailleurs, et juste pour le plaisir. Vous noterez l'aspect minable de ce besoin de dire non après avoir dit amen à tout, toute une journée. Je l'ai relevé également. J'ai ajouté pour moi-même, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je suis rentré, j'ai fini ma bière sans même m'asseoir. Je me suis penché vers la banquette pour prendre mes affaires, mais sauf mon carnet et les papiers, tout avait disparu.
Deuxième partie, l'énoncé des règles.
Je ne sais pas s'il y a des physiciens qui travaillent sur l'acharnement des malheurs sur les malheureux et sur la capacité qu'ont les catastrophes de s'accumuler. Quoi qu'il en soit, moi, le premier quidam venu, je discerne une première règle très claire que j'énoncerai ainsi. Plus les circonstances sont mauvaises, plus se produisent accidents et contretemps, ce qui tend à empirer la qualité des circonstances et ainsi à l'infini. Cela se passe, je crois, de démonstration. Je n'ai cependant pas essayé de l'expliquer au téléphone avec la production. Après avoir quitté le bar, après avoir même pris le soin pour la forme de laisser mon nom, la nature des sacs disparus et mon numéro de téléphone à la patronne du café, j'ai réfléchi un peu à la meilleure manière de me tirer de cette situation. C'était pas simple de rester calme, ni même de réfléchir simplement. Je suis allé dans la voiture et j'ai branché la radio sur une station de musique classique que j'ai laissée très bas. J'ai consulté les papiers que l'ingé son m'avait donnés pour la production. C'était une espèce de convention de location. Le bon point était qu'elle était signée, ce qui signifiait à mon avis que le matériel était déjà assuré. Et puis j'aurais pu me faire fracturer la voiture, ce qui aurait été pire du point de vue de l'assurance, car les franchises sont souvent doublées, voire triplées dans le cas de vol de matériel dans un véhicule. Néanmoins, je me doutais qu'un cas comme le mien ne serait pas couvert par l'assurance. J'essayais d'estimer le prix du matériel. J'aurais parié quelque chose de l'ordre de 5000 euros. Une broutille. Sauf qu'il y avait pour moi matière à être blacklisté, mis au rebut des assistants sons. C'est là une seconde règle, assez explicite d'ailleurs, qu'on apprend rapidement dans le métier. Le fonctionnement en est très simple, et l'énoncé oral, comme dans toutes les tribus. On l'a déduit de toutes ces anecdotes que les gens du milieu racontent sans fin. Combien d'histoires de tournages catastrophiques, de caméras filmant sans pellicule, de branchements défaillants et de problèmes électriques dus à la négligence, de camions garés par des techniciens saouls qu'on met plusieurs jours à retrouver. Projecteurs dégringolés sur un décor, maquillage irritant, travaux ayant défiguré un site repéré ou base militaire dont les essais étaient restés inouïs jusqu'au tournage. J'avais toujours pensé que c'était des sortes de fables, de mythes, ou à la limite des racontars amplifiant complaisamment des contretemps somme toute pas si graves. Sans doute un peu de tout ça. Et dans cette voiture, à ce moment précis, j'entendais presque déjà l'histoire de ce tournage. Je me demandais comment Nathalie, l'assistante mise en scène, qui est aussi rigoureuse sur le plateau que malveillante en dehors et jamais en défaut de jaserie, comment Nathalie narrerait ce sujet. L'assistant, je m'en foutiste, qui va boire une bière de nuit et piteux admet s'être fait voler son matériel dans un troquet. Bref. Ce qu'on déduit de ces anecdotes, c'est qu'ils constituent les récits édifiants sur lesquels repose le monde de la production télé et ciné. Ils en sont les mythes fondateurs. Il exprime la réprobation sociale et assure une cohérence de la corporation en lui permettant de se débarrasser à bon compte de ses défauts, en désignant des boucs émissaires. Se venger, faire un exemple, faire comme si l'on était à la hauteur de l'événement, et toutes ces stratégies qu'on n'énumérera pas mais qu'on regroupe en général sous le nom de moralité. Bref, si je voulais échapper à ce funeste programme, pour ma carrière, je savais le minimum que l'on attendait de moi. Ma négligence était incompréhensible et par conséquent inexcusable, et dans la mesure où elle empêchait une couverture de vol par l'assurance, il fallait bien que je prenne mes responsabilités, comme on dit. Ce qui signifiait ici prendre sur moi de faire une fausse déclaration, de déclarer une situation de vol compatible avec les termes de l'assurance du matériel. Autrement dit, assumer seul les risques de la fausse déclaration, anticiper déjà sur les conséquences immédiates. Il fallait aussi que je prenne les devants et que je retourne chez cet ingé son pour récupérer un autre micro, une autre valise, prétexter une modification de dernière minute du plan de tournage. Peu importe les conditions de ce prêt, si je ne récupère pas une valise de son dans les 6 prochaines heures, c'est une journée de tournage qui tombe à l'eau.
Troisième partie, première péripétie.
Qu'est-ce que tu fous là ?
J'ai reçu un coup de fil en route, la prod change son fusil d'épaule et voudrait organiser une double équipe demain. Y'a moyen de faire une autre location ?
Bonjour amateur production, ne quittez pas.
Je lui fais un sourire complaisant et il me laisse entrer. La soirée, dans le salon désert, en est à un stade étrange. Il y a de la musique pour danser, mais les survivants en sont bien incapables. Sur le canapé, une fille qui fume une cigarette et un gars qui somnole affalé. De la poudre partout sur la table basse. Je suis le gars jusque dans un bureau.
T'as besoin de quoi ?
Micro, perche, préamp, magnéto et câble. Enfin, ce qui conviendrait pour des prises perchées en extérieur.
Je vais voir ce qu'il me reste. T'es qu'à aller te prendre une bière en attendant que je te prépare les papiers.
Je lui dis que je l'attends à la fenêtre, hein, histoire de jeter un œil sur ma voiture. Pour qu'il me prenne pour un gars responsable. Il manque toujours un peu de mouvement dans le salon. Déjà, de traverser la pièce, ça semblait filer le mal de mer à tout le monde. J'ouvre la fenêtre en regardant distraitement la voiture, comme pour croire à mon propre mensonge. Puis je retourne dans le bureau où l'on tape une convention.
J'ai tout mis devant la porte, si tu veux vérifier le matériel.
Entendu. N'hésite pas à saler la note, hein, c'est tarif de nuit. Le mec a l'air de me trouver sympa, et patient surtout. On ne peut pas dire qu'il le soit lui-même. Il griffonne comme à un concours de sténodactylo. Je comprends que cette partie du plan est dans la poche. Et ce soulagement temporaire m'assure encore plus dans le rôle. Ça doit être bon de réussir une performance d'acteur sur un plateau. Ils ont toujours l'air un peu mutiques entre les prises. Pensez-vous qu'ils apprécient en eux-mêmes leur partie ? Qu'ils répètent en vue de la prochaine prise ?
Et c'était la première partie de Fraude à l'assurance. Arthur Hubert interprétait Jean Favre, Victor Daubin interprétait l'ingénieur du son Cocaïnoman. Et la semaine prochaine, suite et fin des aventures radiophoniques de Jean Favre. Se sortira-t-il de cette situation ou s'enfermera-t-il dans son propre récit ? Vous êtes toujours sur Radio Campus. Tout de suite, la suite de notre programme. On va d'abord écouter un petit peu de musique avec Rob Zombie, Living Dead Girl.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Giant down. Deep, the strange cemetery things. We're the ones that put on the devil's wings.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus, l'émission d'été Fabula Narratour. Et tout de suite, le professeur Olibrius, ou plutôt, est-ce que Thibaut, tu as eu des nouvelles du professeur ?
Oui, alors on a passé une bonne partie de la semaine à chercher le professeur pour qu'il tranche un différend qu'on avait au sein de l'émission. Mais il est resté introuvable. Puis ce matin, j'ai reçu cette lettre. Chers amis, je vous envoie cette lettre tout d'abord pour vous signifier que j'avais, encore une fois, raison. On ne capte pas Radio Campus dans les Carpates. J'espérais qu'à présent vous cesserez de douter de mes connaissances. Ceci étant établi, je souhaite également vous rapporter les résultats de mon enquête. Je me suis mis à la recherche de la fameuse ville disparue de Sarnath dont parle Lovecraft. Leur fin fut pour le moins énigmatique. Voici le récit que nous en laisse le mufle américain. Vers minuit, toutes les portes de bronze de Sarnath s'ouvrirent, livrant passage à une foule terrifiée qui envahit la plaine. C'est alors que tous les étrangers prirent la fuite. Sur ses visages terrorisés se lisait la folie que fait naître une insurmontable horreur. Les paroles qui naissaient sur leurs lèvres évoquaient des scènes si affreuses que nul n'osa vérifier leur dire. Les hommes qui avaient pénétré dans la salle du banquet royal en ressortirent hagards, les yeux révulsés d'effroi. Car Narghis Hay et sa cour avaient disparu de ces lieux envahis par une horde d'êtres verdâtres, muets, aux yeux proéminents, aux lèvres charnues et pendantes, aux étranges oreilles. Les nouveaux venus s'étaient mis à danser. Ils agitaient des plateaux incrustés de rubis et de diamants, d'où naissaient des flammes. Les princes et les voyageurs qui fuyaient la cité, chevauchant leurs chevaux, leurs chameaux ou leurs éléphants, se retournèrent une dernière fois vers le lac brumeux et virent Acurion, le rocher gris, submergé. Ceux qui s'étaient sauvés de ces lieux d'épouvante racontèrent à tous leur histoire. Les caravanes évitèrent Sarnath et n'y vinrent plus acquérir ces précieux métaux. En plus d'être un odieux personnage qui fut mon élève pendant bon nombre d'années, il enjolive énormément les lieux. J'ai trouvé celui-ci non loin de la ville de Pitechti. Le rocher n'est pas si reconnaissable que ça, il ressemble davantage à un gros caillou. Il n'est en réalité pas plus gros que mon poing. Pris d'un doute quant à mes informations sur le lieu, j'ai mené ma petite enquête. Mais un gentil gentleman au nez rouge rencontré à l'auberge m'a bien confirmé entre deux grommellements que c'est bien ici que s'est passée cette sordide histoire. Le lac lui-même est proche de la grosse flaque que des grandes étendues propices à développer l'imaginaire. On a les sources d'inspiration que l'on mérite. C'est d'ailleurs ce que je développe dans mon livre, La puissance de l'herbe ou l'art d'écrire en pleine nature, que j'ai pris le soin d'écrire dans un langage jeune. Si Nietzsche avait besoin des grandes montagnes des Alpes pour inventer l'éternel retour, Lovecraft a eu besoin d'une mare à grenouilles pour écrire ce reportage mytho qu'il a appelé La malédiction de Sarnath. Passons maintenant à cette fameuse malédiction. Comme vous pouvez vous en douter, notre faussaire a encore pris beaucoup de liberté. À l'office de tourisme, on m'a uniquement parlé d'un départ massif de la part de la population très superstitieuse. Tout s'est passé dans le calme, mais il y a eu effectivement un déménagement de la part d'un millier de personnes au siècle dernier à cause d'une poignée de grenouilles qui auraient cessé leur cri à la tombée du jour. Ayant perdu leur repère et interprété comme un signe de la forte inconstance qui habiterait ce lieu, les habitants ont préféré quitter cet endroit plutôt triste. Il reste aujourd'hui plusieurs centaines de maisons inhabitées. Une aubaine pour un promoteur immobilier malin. J'espère que mes lumières auront permis de lever le voile sur ce mystificateur de Lovecraft et vous éviteront la facilité de lire l'un de ses textes pendant votre émission. Amitié, professeur.
Eh bien, merci Thibaut de nous avoir donné un petit peu des nouvelles du professeur. Tout de suite, on va passer un extrait, tu peux peut-être le présenter rapidement. La famille Adams.
Oui, c'est simplement une musique de Akamazotz, d'un album Diary of Infernal Gods. Et voilà, samplé avec la famille Adams.
On écoute. Tout de suite, la suite de l'émission d'été Fabula Narrator sur Radio Campus Lille 106.6. Et je crois que c'est au tour de Justin de nous présenter sa chronique aléatoire. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait tiré au sort International Rusé. On t'écoute.
Oui, donc pour cette chronique, je suis effectivement tombé sur l'association International Rusé. Donc afin de mener à bien cet exercice, je me suis demandé qui diantre pourrait avoir besoin d'un grand chant partisan, d'un hymne fédérateur et galvanisant. La réponse était évidente. Jean-Marie Le Pen. Le menhir tonitruant, récemment bouté hors de son Front National historique par sa traîtresse de fille, disait vouloir poser les bases d'une nouvelle formation politique à son image. En voilà un projet qui mérite une chanson patriote. Procédons alors à une transposition nationaliste des paroles révolutionnaires d'Eugène Potier. Le titre d'abord, il paraît nécessaire de le changer, l'international. À mon avis, la connotation est ici beaucoup trop bolchevique. Une rature s'impose. L'intranational. Voilà qui est bien plus dans le ton. Revoyons à présent tout le texte. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'irruption de la faim. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Alors là, je voyais plutôt quelque chose du genre « Debout les damnés de la terre, debout les ménards, les pétains, la raison tonnant son cratère, c'est l'irruption de la faim, on peut garder ça. Des migrants faisant table rase, calaisiens debout, debout, la France va changer de base, ils ne sont rien, soyons tout. » Beaucoup mieux. Le refrain maintenant, donc sur deux airs différents. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, on connaît, on va changer. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'intranational fera fuir les Roumains. Couplet 2. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Ici, encore une fois, ça ne va pas du tout. Nous allons dire, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni Jeanne, ni même Soral. Maurassiens, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut non halal. Pour que le voleur rende gorge, pour jeter les traîtres au cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons Philippot quand il est chaud. Au couplet 3, on peut lire « L'État comprime la loi triche, l'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. » Ici, je propose « Marine me vire et la loi triche, l'envahisseur saigne le français, nul devoir ne s'impose aux derviches, le droit du sang est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'inégalité veut d'autres droits. Pas de droit sans devoir, dit-elle, pas de Léonarda chez moi. » Au couplet 4. Hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Tout est à revoir encore une fois. Donc hideux dans leur apothéose, portugais et polonais, ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans le coffre-fort des Judas, ce qu'il a créé s'est fondu, en décrétant qu'on le lui rende, le français, bien sûr, ne veut que son dû. Couplet 5. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, quelle idée, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, ça c'est très bien, cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Ça alors, on va plutôt mettre « Les chichas nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux sarrasins, appliquons la charge de l'armée, canons en l'air et serrons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, ça on le garde, à faire de nous des bourreaux, voilà qui rappellera l'Algérie, ils sauront bientôt que nos balles sont pour eux les romanos. » Et le dernier paragraphe de l'international. « Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaisent? Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. » Ce que je propose pour M. Le Pen de changer en « Identitaire suprématiste, nous sommes le grand parti des résistants. La France n'appartient qu'aux Gaulois. » Le sans-papier ira loger ailleurs. Combien de nos trottoirs se repaisent? Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Il gardera cette fin. Et voilà donc l'intranational, une adaptation rusée de l'international vue de l'œil au singulier, j'insiste, de Jean-Marie Le Pen. Une chronique qui n'a a priori rien à voir avec Halloween, quoique cette vision est finalement assez cauchemardesque.
Oui, merci Justin. Du coup, je crois que nous devons pratiquer le tirage au sort, mais
en absence des dés qui nous servent à cet effet, nous l'avons fait avant. Peut-être que ce faisant, on donne raison à cet auditeur la dernière fois, je crois, le journaliste en colère, qui disait que peut-être on truquait. Mais faites-nous confiance ou pas, nous avons tiré hors antenne le 5 et le 13, ce qui donne reportage en noir et blanc. Et c'est à moi de m'y coller.
Pour toi, Nicolas.
Voilà. Ouais.
Donc,
bon courage.
Merci. Je ferai ça pour la semaine prochaine. Tout de suite, le bal des vampires. Et vous allez rencontrer un certain Krolok.
Vous avez une bien curieuse façon de forcer la porte de ma demeure.
Bah, c'est-à-dire que, pour être exact, monsieur...
Je suis le comte von Krolok.
Très honoré. Oh.
Professeur Abronsius de l'université de Königsberg. Ah, cela change tout, évidemment. J'ai eu l'occasion de parcourir votre ouvrage, La chauve-souris et ses mystères.
Non, c'est vrai?
Remarquable. J'en ai même un exemplaire quelque part. J'aimerais que vous me le dédicaciez.
Oh, votre excellence, mais c'est trop d'honneur.
Ainsi, vous vous êtes égaré.
Non, en réalité, nous étions partis à la poursuite de...
Vous étiez partis à la poursuite de...
D'un chiroptère. Oui, nous étions partis à la poursuite d'un chiroptère.
Tiens. Je croyais que les chauves-souris étaient en hibernation durant les mois d'hiver.
Ah, pas toujours, votre excellence.
Et pourtant, j'ai relevé ce fait dans votre ouvrage.
Justement, et vous comprendrez sans peine l'étonnement qui me saisit, ainsi que mon élève, nous n'arrivions pas à en croire nos yeux. N'est-ce pas, Alfred?
Nous étions sidérés, c'était quelque chose de tellement extraordinaire.
Peut-on l'imaginer? Un chiroptère voltant joyeusement en décembre. C'est assez incroyable. Le plus fort, c'est qu'il était gros comme ça, hein, n'est-ce pas, Alfred?
Ouais.
Bien sûr, ce n'a rien d'exceptionnel. Dans mon second volume, actuellement sous presse, je cite un certain nombre de cas analogues observés par mes savants confrères zoologistes tels que Falkner de Munich, Otto Hafner de Prague.
Curieux,
oui, mais pas du tout inexplicable. Je crois que la cause de ce phénomène réside dans le besoin de lutter contre la torpeur de l'hibernation, de faire circuler le sang par des mouvements élémentaires et de rendre leurs fonctions aux organes vitaux, et cela sans appel du cerveau. Oui, ces gestes machinaux provoquent par conséquent une certaine lévitation, et l'animal vole sans s'en apercevoir. Naturellement, je vous parle des espèces extrêmement rares qui n'obéissent pas aux lois de l'hibernation.
Des chauves-souris somnambules, quoi.
Voilà. On peut admettre en effet qu'elles volent pendant leur sommeil.
J'avais une tante qui était somnambule. Elle allait souvent la nuit se promener sur les remparts sans que cela m'inquiète le moins du monde, car ses pieds touchaient le sol. Mais marcher n'est pas voler. Comment est-il possible d'éviter un obstacle en vol si l'on est plongé dans un profond sommeil?
Votre Excellence, vous semblez être une autorité en la matière.
Je me suis passionné pour tout ce qui touchait aux sciences naturelles. Ma jeunesse en a été marquée. Ma bibliothèque. Je la mets à votre disposition. Selon vous, on peut donc voler en dormant. Comment cela est-il possible?
En parlant de jeunesse, j'ai oublié de vous annoncer le post-scriptum qu'avait ajouté le professeur, disant qu'il revenait la semaine prochaine. Et donc, ce sera l'occasion de lui demander s'il me semble l'avoir entendu parler du professeur Abronsius comme d'un bon ami à lui.
Ça ne m'étonne pas, ils semblent partager tous les deux un goût pour le farfelu. Mais tout de suite, on va écouter un morceau de Psychobilly avec Human Fly de The Cramps, issu de l'album Bad Music for Bad People. Thank you.
is 96 as I got a gun in his brain, driving me insane. And I don't like the ride, so push that bastard aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Right. I'm a human fly, I still eat it a while, I say buzz, I ain't as cheeky, I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say, rock it right, and I say, but I don't know why. Don't know why.
Et c'était à l'instant Human Fly. Le groupe s'appelle The Cramps. Merci Justin m'avoir ôté de ce petit souci momentané, je ne retrouvais plus le nom. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, émettant sur 106.6 MHz et l'émission d'été Fabula Narratour. Tout de suite, je vais lire un texte d'Edgar Allan Poe, Le cœur révélateur, issu de son recueil Les nouvelles histoires extraordinaires, et la traduction de Charles Baudelaire. C'est un texte que nous a proposé notre camarade Victor, donc j'en profite pour le saluer. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai bien entendu des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou ? Attention, et observez avec quelle santé, avec quel calme je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle, avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard, et par ce moyen de me délivrer de l'œil à tout jamais. Chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond, en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. Une nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais, avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là, ouvrant la porte, petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire. Et peut-être m'entend-il, car il remua soudainement sur son lit, comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non. Sa chambre était aussi noire que de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses. Car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs, et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne, quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc et le vieil homme se dressa sur son lit, criant « Qui est là ?» Je restai complètement immobile et ne dis rien pendant une heure entière, je ne remuais pas un muscle, et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était sur son séant, aux écoutes. Juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement, et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non ! C'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit. Bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est rien, que le vent dans la cheminée, ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet, ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Oui, il s'est efforcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain, parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire, et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vît et n'entendît rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu un long temps très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entr'ouvrir un peu la lanterne, mais si peu que rien. Je l'ouvris donc, si furtivement que vous ne sauriez l'imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur cette place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens ? Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent, vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi. C'était le battement du cœur du vieux. Il accrut ma fureur. Mais je me contins encore, je restais sans bouger. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée, et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien ? Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis, en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela toutefois ne me tourmenta pas. On ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Son œil désormais ne me tourmentait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. Je coupai la tête, puis les bras, puis les jambes, Puis j'arrachais trois planchers du parquet de la chambre et je déposais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les feuilles si habilement, si adroitement, qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Quand j'eus fini tous ces travaux, il était 4 heures. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant ? 3 hommes entrèrent, qui se présentèrent comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police, et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre ? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs dans toute la maison, par toute la maison. Je les invitais à chercher, et à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportai des sièges dans la chambre et les priai de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle, et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal, et il me semblait que mes oreilles me tintaient. Comme ils restaient toujours assis, et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardais plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon, et prit un caractère tout à fait décidé. Tant qu'à la fin je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais et je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé, avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? J'arpentais ça et là contradicteur, mais le bruit croissait régulièrement. Pardon, j'arpentais ça et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire ? Était-il possible qu'ils n'entendissent pas ? Non, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. « Misérable ! » m'écriai-je. « Ne dissimulez pas plus longtemps. J'avoue la chose. Arrachez ces planches. C'est là, c'est là. C'est le battement de cœur de son... C'est le battement de son affreux cœur. » Eh bien, c'était un texte... disons, je me suis emporté en l'écrivant, en le lisant, pardon. Ça m'a mis dans tous mes états. Je vous propose tout de suite Higelin, Champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous page pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis les crevages. Lutin, Lucien, feu
follets, elfes faux, les farfadets, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tout a marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale et géris insatiables, chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale. Charme nous aveugle, envahi par la mélancolie. Envoie satire joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière d'Orconne. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait pas bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6. On est bien remis de nos émotions après l'audition de Jacques Higelin, Champagne. Ça aussi, c'était une proposition de Victor. Et tout de suite, on va écouter Happy, Happy Joy Kill de Company Flow, qui devient presque en fait le saint patron de notre émission. L'album Little Johnny from the Hospital.
Will I still be perfect tomorrow?
Et c'est la fin de cette quatrième émission de DT Fabula Narratour, une émission hors série préparée et conçue par Justin, Victor, Estelle, Arthur, Nicolas et Thibaut. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, critiques, suggestions de textes ou de thèmes à l'adresse fabula.narratour@laposte.net. Fabula.narratour@laposte.net. Vous pouvez aussi visiter notre blog fabulanarratourblog.wordpress.com où se trouve un formulaire où vous pourrez aussi nous contacter si jamais vous avez raté l'adresse mail. Et la semaine prochaine, toujours un hors-série avec la deuxième partie de fraude à l'assurance, mais aussi vos chroniques habituelles. Le professeur Olibrius sera-t-il de retour? C'est quoi déjà le thème de...
Un reportage en noir et blanc?
Ouais, un reportage en noir et blanc.
Alors, ouais, c'est ça.
Est-ce que
voilà
je m'en...
Dîner.
Pardon?
Voilà à quoi tu seras cuisiné.
Oui, m'en sortirai-je avec un résultat haut en couleur? C'est ce que vous verrez la semaine prochaine. Bon, pardon, tu voulais...
Il faudra être là samedi pour le savoir.
Absolument. Bonne semaine, bon week-end et bon Halloween.